Donc, on est en plein, donc il est 18h a priori, si je dis pas n'importe quoi. C'est toujours Radio PSG matin, les 25h de la matinale. On est toujours en direct du Vanilla Café, on est toujours en direct sur peanut.org et sur Radio PSG matin. .org. On est toujours au 48 rue André Joanneau, au Pré Saint-Gervais. Il reste je sais plus combien d'heures et on arrête de compter quand il est 18h parce que c'est l'heure de l'apéro. Et c'est aussi l'heure de changer de plateau. Donc on va faire un petit bise de changement de plateau, mais pendant ce temps, on ne va pas vous laisser sans rien. On ne va pas vous laisser en reste. On va vous laisser les miettes. Non, on va vous laisser avec, je crois, DNS et JDSK, la dictée magique, une conférence, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a une petite improvisation d'une demi-heure qui est en train de se passer pendant que nous, on va déplacer le gros du plateau. Voilà. Et ben, tout à l'heure, bon changement de plateau. Et voilà quoi, bon changement de plateau.
PSG matin. Oui, tout à fait délicatement. DNS, dis-moi.
Je dois faire un entretien avec la P-case.
Ok, ça marche. Et la P-case, un petit entretien à la P-case. Eh ben, écoutez, un petit entretien. DNS qui s'entretient avec Benjamin tout de suite à la P-case. Alors, je leur laisse la place.
Oui, mais là, attends,
pendant quelques instants, pendant le changement de plateau, donc là c'est l'effervescence dans le Vanilla Café. Ça commence à grossir, voilà, ça commence à rebondir de toutes parts. C'est bientôt l'heure de l'apéro, hein. Chacun veut avoir sa bonne place, son bon coude pour boire un petit coup. Et donc tout de suite, un entretien de DNS avec Benjamin. À la P-case, alors on va les laisser opérer. DNS.
Merci. Je fais bon bah je suis là. Bon c'est juste pour voir. Ouais bah on est là, on est bien. Lui il est là. Toc, 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 voilà, un peu de timbre. Super. Alors, chers amis, ouais, ce matin, la matinale, on a, Fanny, je vais te demander de laisser ta place à Benjamin, parce que nous, on va être obligés de rester dans ce coin. On va être, ouais, on est un peu, voilà, on est un peu punis. Donc ce matin à la matinale, on a croisé BJMN qui se rendait au collège JCQS, etc. Juste à côté pour des conférences de sensibilisation au métier de la propreté.
C'est ça.
Auprès donc des collégiens du collège Jean-Jacques Rousseau. Et on lui a demandé de revenir nous voir pour nous faire un petit... nous raconter un peu comment ça s'était passé.
Alors, ça s'est très très bien passé. Tout d'abord, c'est sûr que les métiers de la propreté n'ont pas très bonne presse, et surtout auprès des jeunes. Donc quand on va les voir en leur parlant de propreté, est-ce que ça vous intéresse, ce secteur-là? Bien évidemment, à 90%, les élèves disent ah non, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas avoir les mains dans la saleté, on ne veut pas avoir un travail, on est en rapport avec la saleté. Et moi je leur explique en fait que en fait, le secteur de la propreté, c'est quelque chose de complètement vital pour le fonctionnement de la société. Et je commence par les éboueurs. Sans les éboueurs, on aurait la prolifération justement de plein de maladies. Et que grâce à eux, grâce à leur travail rigoureux, eh bien, on évite un maximum de prolifération de maladies liées justement à l'accumulation des déchets. Après, j'ai parlé des hôpitaux. J'ai parlé aussi de la réglementation qu'on va retrouver dans la restauration. Donc c'est une réglementation sanitaire qui s'appelle HHCCP. Et c'est une réglementation que nous avons votée donc, au Parlement européen. Donc tous les pays donc, de la communauté européenne doivent respecter ces normes sanitaires. Et le truc qui est intéressant, et ça j'aime bien leur apprendre un petit peu, leur donner un petit peu de culture générale sur d'où viennent en fait ces types de réglementations. Et là, elle est vachement intéressante parce que cette réglementation a été développée pour les astronautes. Eh ouais, parce qu'il fallait bien qu'ils se nourrissent dans l'espace et il fallait trouver des protocoles très rigoureux, très stricts pour qu'ils ne tombent pas malades dans l'espace. Et on a adapté en fait ces protocoles à la restauration dans toute la communauté européenne. Voilà. Donc ces normes-là, elles sont très très importantes parce que peu de gens le savent, mais les restaurateurs peuvent tuer leurs clients assez facilement s'ils ne respectent pas justement tous ces protocoles donc, d'hygiène. Voilà, et c'est très intéressant parce qu'à la fin de ces interventions, évidemment, heureusement, j'ai quand même quelques élèves qui sont intéressés, qui disent « Ah tiens, effectivement, je ne connaissais pas ça, des métiers de la propreté. » Voilà, donc j'ai la chance d'avoir ces échanges avec ces générations-là. Mais j'échange aussi des fois sur d'autres sujets qui sont aussi des sujets très intéressants aujourd'hui, c'est-à-dire les discriminations, les réseaux sociaux et la laïcité. Et là, je travaille sur les établissements sur toute l'Île-de-France. Donc moi qui viens de la sociologie, c'est un terrain d'enquête extraordinaire d'avoir justement la température générationnelle sur la question de la laïcité. Et je m'aperçois de quelque chose qui est assez troublant pour ma génération. Moi, je suis de la génération 76. C'est qu'il y a un repli donc l'égalité homme-femme voilà, dans la nouvelle génération et notamment chez les jeunes. J'entends des discours de jeunes qui ont 14, 15 ans, 16 ans qui disent très sérieusement que la place de la femme est à la maison, qu'elles doivent s'occuper des enfants et faire la cuisine. Et ce qui est très étonnant dans ce genre de discours, c'est que vous avez les filles autour qui, dans la plupart des cas, ne disent rien et laissent ces discours voilà, se propager parce qu'elles refusent en fait, de rentrer en conflit. C'est pas qu'elles ont un avis très tranché sur la question, mais elles ne veulent pas donc, se mettre en danger, c'est-à-dire assumer leurs propos parce que eh bien, il y a une forme de pression qui est exercée toujours des garçons sur les filles, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis extrêmement longtemps.
Mais là comment ça s'est passé au collège, je sais pas, est-ce que, enfin, parce que t'as fait combien d'interventions aujourd'hui?
4 interventions, mais figurez-vous que à la deuxième intervention, au bout de 40 minutes, il y a eu une alerte.
Une alerte propreté?
Une alerte à la bombe. Et on a dû... Non, c'était une vraie alerte à la bombe. Donc il y a eu une évacuation de tout l'établissement. Et nous avons gentiment attendu 1h30 à l'extérieur de l'établissement avant de pouvoir reprendre. Voilà, donc c'était l'événement de mon intervention dans cet établissement. Mais voilà, c'est très enrichissant en fait d'aller à la rencontre de la jeunesse. Ça, j'en suis convaincu depuis.
Mais parce que quand tu dis que donc dans les métiers de la propreté, oui, tu mets la restauration, c'est-à-dire que c'est les postes de propreté dans la restauration, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chargés de l'hygiène, de la propreté, ou c'est la restauration, enfin, ou c'est
des gens qui sont en charge justement de contrôler les services d'hygiène et de propreté.
Ah oui, ça, oui,
elles contrôlent donc tous les restaurants. Et donc pour être sûr qu'ils respectent bien cette réglementation. Et c'est pour ça qu'on a régulièrement des restaurants qui vont avoir des fermetures justement administratives à cause du non-respect justement de cette réglementation.
Est-ce que personnellement, là comme ça, off record, comme on dit, tu penses qu'il y a certains abus de cette réglementation? C'est-à-dire que pour à vouloir protéger, à vouloir, etc., on tombe dans des excès, pas des abus, pardon, des excès, même des petits excès. Enfin, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait un peu alléger, à ton avis, ou...
Alors... Sur les questions de la restauration, j'ai la chance de vivre avec une chef cuisinier.
Oui.
Et c'est comme ça que j'ai appris que les restaurateurs peuvent tuer leurs clients s'ils ne respectent pas ces règles.
Ah oui, oui, bah, donc, oui, tu peux toujours...
Effectivement, on pourrait alléger, mais on augmenterait le risque Voilà, si on allégeait ces réglementations, on aurait une augmentation du risque justement de
l'intoxication alimentaire.
L'intoxication alimentaire. Voilà. Donc je sais que...
Ah. Il faut que tu prennes ça. C'est ça. Pardon, tiens, viens par là. Benjamin, on va... Oui, parce qu'on est en plein déménagement. Hein. On passe de l'avant du café à l'arrière du café, en même temps qu'on fait un entretien. C'est vraiment radio multitâche. Hein. Tâche de fond, tâche de...
Très intéressant d'ailleurs l'évolution du Pré Saint-Gervais hein, depuis ces 20 ans.
Tu connais depuis longtemps ?
J'ai connu le Pré Saint-Gervais il y a plus de 20 ans. Donc je connaissais bien ici et je sais que ça a énormément changé, je trouve.
Ouais. Ah oui, ça complètement. Enfin, moi je suis arrivé il y a 25 ans, effectivement.
Voilà, et à 25 ans, c'était une toute autre ambiance. On était vraiment dans une ghettoisation très très importante. Et là, je trouve que le Pré Saint-Gervais s'ouvre beaucoup plus. Voilà. Très intéressant.
Une ouverture de la ville.
C'est ça, une ouverture de la ville.
Ouais, un dernier mot
Eh bien, un dernier mot. Le dernier mot, c'est que la conjoncture actuelle nécessite que nous arrivions à parler ensemble. Et quand on s'est rencontrés ce matin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le public qui était là, on parlait justement de judaïsme, des séfarades et des ashkénazes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parler de ça, c'est quelque chose, c'est comme si c'était un tabou. Si les gens n'osaient plus parler de ça à cause du conflit israélo-palestinien. Donc je trouvais ça extrêmement sain de voir une radio dans laquelle on pouvait parler de ça librement, sans s'invectiver, en étant assez posé. Et il y a vraiment des choses très intéressantes sur la communauté séfarade à aborder. Sur les relations qu'il y a justement entre les juifs d'Algérie d'accord, et les musulmans d'Algérie. Et si un jour vous me réinvitez, on pourrait parler justement du décret Crémieux, qui a été un point de bascule en fait dans la scission entre les juifs donc algériens et les musulmans algériens.
Voilà. Oui, tout à fait. Réinviter. Nous, on est là tous les un lundi sur deux, de 7h à 9h. Bienvenue. Hein, bienvenue. Je ne sais pas comment tes pérégrinations pourront t'amener encore à passer dans ces heures-là. Donc la prochaine fois qu'on est là, enfin à part là où on fait 25 heures, c'est tout à fait exceptionnel. Mais sinon, on ne fait que 2 heures. Hein, on fait de 7h à 9h. Le matin. Mais effectivement, mais plus que la radio, enfin effectivement, mais parce que nous, on est la radio, parce qu'on dit dans cette radio, c'est ce qui se dit dans ce café. Et que dans ce café, et j'espère dans beaucoup d'autres, et certainement quand même dans beaucoup d'autres, justement, oui, on peut parler conflit israélo-palestinien, on peut parler judaïsme, on peut parler musulman-juif, etc. Ce qui se passait entre Jackie et Farid. Etc.
Vous êtes dans un café kabyle. Et en fait, la culture kabyle, elle est extrêmement intéressante. L'histoire des kabyles en Algérie, c'est extrêmement intéressant. On n'en parle pas. Donc vous avez toute une jeune génération qui ne comprennent pas en fait leur histoire parce qu'ils ne savent pas, parce que personne ne parle de ça. D'ailleurs, on le voit hein, aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie, il n'y a pas un seul instant. On a parlé des Kabyles dans cette affaire.
Les Kabyles sont, pour le peu que je sache, sont sinon ostracisés, enfin en tout cas, sont pas du tout reconnus en Algérie.
Voilà. Ils sont extrêmement discriminés en Algérie.
Discriminés, voilà, c'est ça.
Que c'était les premiers à peupler, en fait, l'Algérie, avant les Arabes.
Oui, absolument, absolument. Bon, merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Bon retour.
Voilà.
Bonne soirée.
Écoutez-vous aussi.
On va et puis à la prochaine.
À la prochaine.
Complètement. Bah, je vous laisse.
D'accord. J'étais en train de questionner les enfants.
Il faut. Parce que après, ouais, qu'on emmène ça là-bas. Ouais.
Ah non, on n'est pas prêt, hein. C'est pas prêt là-bas.
On est chez les membres, attends, on va y arriver.
Merci beaucoup d'être là.
Merci à vous d'organiser tout ça. Alors, de manière tout aussi impromptue, je reçois Fanny Quément, qui était de passage à Paris pour passer sur une autre radio, pour parler de deux livres, et notamment de la collection toute neuve, d'après ce que j'ai compris, qui s'appelle Collection Prose Libre. Et du coup, elle est là, elle est passée, et ben on lui a sauté dessus, on lui a dit « Vas-y, viens dire ce que tu as à dire là-dessus ». Donc je passe le micro à Fanny.
Merci beaucoup, je suis super contente de vous avoir rejoint dans la foulée. Et comme ça, je vais pouvoir dire tout ce que j'ai pas pu dire dans la demi-heure divisée par trois qui était sur une autre radio tout à l'heure. Puisque, en fait, donc il y a cette nouvelle collection qui s'appelle Prose Libre chez Quartet Éditions, qui est une maison d'édition qui, à l'origine, publie du théâtre, mais qui a décidé de se lancer dans cette aventure aux frontières très floues. Prose libre. Et justement, j'étais très contente que ma première publication comme autrice, puisque je fais partie des deux personnes dont les textes lancent cette collection, l'autre écrivaine étant Delphine Arras avec Je plonge des bleus. Ça, c'est le titre du premier texte et il est suivi de Rien n'est en bleu que le feu. Pour ma part, mon texte qui s'appelle donc Juice Cassagante, j'étais très contente qu'il ne soit pas catégorisé poésie, puisque je n'aurais pas osé le définir comme un roman, parce que là je crois qu'on des personnes auraient voulu me demander des comptes vraiment si elles espéraient lire un roman, et j'aurais eu peur qu'on vienne. Qu'il y ait des envies de vengeance, je le définis pour ma part comme une fiction poétique. Et quant au texte de Delphine Arras, c'est un monologue qui est à la première personne, une première personne qui se conjugue au masculin, une première personne très multiple, puisque c'est une personne qui, je trouve, a des entités, c'est une personne qui héberge des entités. Déjà, c'est quand même une personne qui parle à son ventre, et puis c'est une personne qui parle de mon hirsute, mon inquiet, mes monstres, toutes ces espèces d'entités qui font partie d'elle, de lui. Et donc ce monologue a tout de même... Il y a quelque chose qui tient du théâtre. Là, on voit bien le lien avec l'histoire de la maison d'édition. Il y a un côté monologue dramatique. D'ailleurs, il y a un espace scénique qui est clairement désigné à un moment. Mais ça tient aussi du monologue intérieur des romans modernistes du début, de la première moitié du XXe, on va dire. C'est un monologue assez détraqué. Et pour en revenir à cette histoire de prose libre, qui est quand même ce que j'ai envie de défendre là, en prenant possession du micro que j'ai plus envie de lâcher, désolée, je crois que ça va être aussi une forme de monologue, c'est que dans cette... pourquoi est-ce qu'il faudrait libérer la prose? Bon, on sait qu'il y a eu le vers libre qui a libéré la poésie, et la prose, on pourrait se dire, bon, c'est plutôt libre, mais en fait, elle est tout de même, cette prose, complètement prisonnière des genres qui définissent, par exemple, les rayonnages dans les librairies, et quand, de nos jours, on propose un roman, on n'est pas censé trop s'éloigner de certains codes. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, et je pense que d'ailleurs les exceptions les plus récentes montrent que nous atteignons un point crucial dans l'histoire de l'écriture. C'est un tournant à ne pas rater, un tournant que, à mon avis, une certaine Hélène Bessette a tenté de lancer à la fin des années 60, mais elle était trop en avance sur son temps. Hélène Bessette, c'est pas grave si vous, la connaissez pas, c'est pas grave si vous l'avez pas lu. Je sais que ça fait un peu genre je fais des références et tout, mais en fait c'est juste parce que je l'adore et que, alors oui, éventuellement si vous voulez aller la lire, peut-être Ida ou Le Délire, c'est une super façon de commencer. Mais en fait ce qui est important, c'est que cette femme qui écrivait des trucs complètement pétés et des romans poétiques, en fait, elle a voulu à l'époque lancer ce qu'elle rêvait sous la forme d'un gang du roman poétique. Le problème, c'est qu'elle était complètement toute seule. Elle a été extrêmement isolée, elle a connu une mort éditoriale en 73, elle a été très productive, elle a été beaucoup publiée chez Gallimard, tout ça, et puis pof, 73, mort éditoriale, Gallimard veut même plus garder les droits, mais ça c'est pas plus mal parce que ce qui se passe c'est que dans les années 2000, Benoît Viro du Nouvel Attila se dit « Oh oh oh, il y a des textes intéressants là, du côté de ce gang du roman poétique qui ne comptait qu'une seule femme complètement isolée, et si je rééditais tout ça ?» Donc le Nouvel Attila fait un travail de réédition des œuvres de cette autrice. Et je pense que ce qu'on tient avec cette collection Prose Libre, c'est le début du vrai gang du roman poétique, avec chez Delphine Arras, par exemple, un personnage qui parle de grammaire sans mort, M-O-R-S, c'est-à-dire une grammaire comme, comme les morts du cheval, donc. Un cheval qui serait enfin libéré de... Enfin, les morts, c'est ce qui permet de conduire le cheval. Donc là, la grammaire sans mort, la grammaire s'emballe un peu. Elle fait comment on appelle ça ? Après, des ruades, ça c'est peut-être un peu plus comme les ânes, je sais pas. Mais en tout cas, Delphine a le don de nous créer, de nous offrir comme ça des petites surprises grammaticales, par exemple en employant des noms communs comme des verbes. Elle dit à un moment « je couleuvre », elle dit « qu'elle panthère » aussi, enfin pas mal de comme ça d'utilisation de mots d'animaux, de noms d'animaux qui deviennent des verbes. La grammaire sans mort, ouais, moi ça me parlait bien. J'aurais dit que pour ma part, ma prose serait plutôt du style scooter débridé, avec le moteur débridé. s'il faut rester dans les, voilà, dans les images des trucs qu'on enlève pour que les... Voilà, d'un côté, il y a le cheval fougueux et de l'autre, le scooter débridé. Delphine Arras, elle a aussi beaucoup d'inventivité. Pour en revenir à cette histoire de monologue qui est en même temps une voix plurielle, il y a une petite expression qui m'a beaucoup marquée, c'est ça tient en trois mots, je me césure. Donc là aussi on voit qu'elle elle détourne, le verbe pronominal se césurer n'existe pas. Peut-être que césurer comme verbe transitif existe, césurer quelque chose, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, on s'en fiche un peu. Mais je me césure, alors certes, au fond ce n'est qu'une variante du fameux je est un autre. Hein. Mais césurer, c'est quoi ? C'est couper, faire des petits bouts, notamment par exemple en poésie, il y a la césure à l'hémistiche de l'Alexandrin. Mais justement, c'est pas des vers et c'est de la prose libre. Et puis là, c'est le jeu de l'énonciation, le jeu de la personne qui parle, qui se césure. Je trouve que, c'est le genre de choses, de moment dans, quand je tombe sur une formule comme ça. En plein monologue détraqué, dramatique, intérieur, tout ce qu'on veut, ça me fait quelque chose d'assez saisissant. Et c'est ça que j'apprécie dans ces vagues de prose libre qui racontent des choses aussi, parce que c'est ça que j'apprécie dans cette collection, c'est qu'on peut se permettre de ramener la poésie à la narrativité. Et je sais pas, là c'est le moment où peut-être faut me dire si je continue de parler ou parce que je peux tenir très longtemps, j'avais vraiment plein de notes, hein, mais ouais, je sais pas, faut continuer, est-ce que je continue? Ah ouais, il y avait un truc quand même super. Ouais, donc ok, je continue. parmi les choses que j'aurais aimé dire dans le rapport au langage dans cette collection, en tout cas pour il y a un truc commun au texte de Delphine Arras et au mien, c'est une espèce de rapport très charnel au langage, avec des textes qui viennent... Alors, ce qui est dit dans nos textes, c'est que ça vient du fond de la gorge. Delphine, elle dit... le personnage de Delphine, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les deux, c'est son personnage qui dit, qui parle de sa gorge devenue hochée. Le personnage mentionne aussi l'existence d'un yo-yo dans la gorge. Hein, la luette avec laquelle on peut jouer, c'est quelque chose qui a été aussi présent dans mon texte, alors qu'on ne se connaissait pas du tout avant d'être publiées toutes les deux chez Quartet. Pour ma part, j'avais détourné la comptine de la fameuse l'alouette toujours gentille, qui devenait alouette, gentille alouette, 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 Juice de plume en ré. Juice étant le prénom d'une des personnages du texte. Donc il y a ce rapport, on vous donne à lire des textes qui viennent, je crois, du fond des organes phonatoires, et même d'encore plus loin, parce que ça vient du fond de la respiration, une respiration qui n'est pas située uniquement en haut des poumons, mais qui vient carrément du ventre et de tout le corps. Où en sommes-nous au niveau du timing? Je continue en roue libre. Ok, le plateau, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que je meuble en attendant que le... moi j'adore faire meuble. Si. non, mais ça me va très très bien. Comme... je fais le mobilier, là. Tu sais, le mobilier c'est des trucs qui bougent. Donc déjà, ça me va d'être un meuble, du moment qu'on ne m'a pas planté des clous pour que... Un meuble emballé, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts sur l'emballage. J'ai mis un petit foulard coloré, une belle veste en jean et tout. Mais pour en revenir à l'emballage, d'ailleurs les livres sont très beaux. Ils ont une belle couverture texturée, comme on dit. Ah ouais, il y a le petit logo de la collection Prose Libre. Moi, je l'aime beaucoup. Et j'y vois. Ah ouais, toi aussi, tu vois un book, parce que. Alors, en fait, je suis en train de parler à mon amie Julie, à Julie Desk, mais je ne sais pas si vous l'entendez, parce qu'on pourrait croire, je pense qu'à la radio, à mon avis, on va croire que je parle à du vide, mais Julie vient de dire « Ah ouais, c'est un book !» Et il se trouve que les éditeurs, le duo qui dirige la collection Prose Libre, donc Benjamin Dupré et Déborah Hessler, voient dans ce logo un mouflon, et plus particulièrement un mouflon priapique.
Oula.
Voilà. Donc un bouc, pourquoi pas. Ouais. Moi j'y voyais un Bernard l'ermite et un limaçon. Mais je voyais, mais ça c'est mes petites obsessions personnelles, parce que je voyais aussi quelque chose de très proche du limaçon, colimaçon, parce que c'est en fait c'est aussi quelque chose qui fait partie du tympan. Voilà, ça fait comme une oreille, et quand on regarde à l'intérieur d'une oreille en très gros.
Si on se met dans le sens inverse, on pourrait presque avoir l'escargot avec des jambes, avec la si je puis dire, la tête qui est baissée,
ouais.
Avec la coquille et une queue quand même. Hein. Ouais, c'est très étrange.
Ben, j'adore cette étrangeté, je pense que ça va vraiment bien avec tous les petits monstres qui pourront naître dans cette collection, pour que enfin le gang du roman poétique puisse exister.
Ouais. Merci beaucoup Fanny Quément, qui était là par hasard plus ou moins, et qui nous a parlé de... Prose Libre, collection Prose Libre pour le gang des romans poétiques.